Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, mardi 5 octobre, bonjour Gilles Gansman.
Bonjour Valérie.
Bonjour Élise Lucet, bonjour. Merci d'être avec nous, ainsi que Linda Bendali, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, vous êtes, Élise Lucet, on ne la présente plus, hein. Vous êtes là pour parler d'un cache investigation consacré à Dominique Strauss-Kahn, DSK, enquête sur un homme d'influence, un document que vous avez réalisé, Linda Bendali, vous avez enquêté, vous êtes allée jusque dans le désert d'un petit Émirat, voilà. On va y revenir. J'avoue que on a été intrigué par le communiqué qui était paru il y a quelques semaines. C'est l'un des Français les plus célèbres et influents. Cet homme gagne le salaire d'un patron du CAC 40 tout en jouant avec les frontières fiscales. Alors vous avez deviné le sujet de la prochaine enquête de Cache Investigation. On vous a invité, on ne savait pas quel était le sujet. On se disait qu'il y avait quand même un gros coup, mais il y avait un embargo quand même.
Oui, en fait, comme vous l'avez compris maintenant, parce que ça y est, c'est public. On travaille avec l'ICIJ, c'est plus de 600 journalistes dans le monde, 117 pays, et il y a des codes très précis à l'ICIJ, c'est qu'on ne communique pas sur les sujets qu'on traite, on communique vraiment tous exactement en même temps, partout dans le monde, le même jour, à la même heure. Ça fait un peu un effet de déflagration journalistique, mais du coup, on est vraiment tenu à respecter cette confidentialité, c'est hyper important, parce que sinon, on peut tout simplement ne plus faire partie de l'ICIJ. Donc, c'est pas une volonté de faire mystère, etc., de cacher ce sur quoi on enquête. C'était cette volonté de respecter ce pacte de confidentialité que nous avons, le monde Radio France et nous, avec l'ICIJ.
Alors, ICIJ, c'est le consortium international des journalistes d'investigation, et on va revenir sur ces Pandora Papers, après les Panama Papers. Vous allez nous raconter un petit peu les coulisses de cette enquête, Gilles.
Vous n'y êtes pas dedans.
Pardon ?
J'ai regardé, vous n'y êtes pas. Vous n'avez pas de fortune.
Non,
je suis très triste.
C'est désespérant. Voilà.
Vous savez tous les youtubeurs.
Prenez pas cet air affligé.
Ils ont été très malheureux, tous les youtubeurs.
J'ai vu quelqu'un qui disait qu'il va falloir qu'ils se retrouvent un autre boulot.
Oui, tous les influenceurs. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Linda et Élise. Hier, WhatsApp, Instagram, Facebook, tout est tombé
en panne.
Ça prouve quand même.
Vous aviez une fille au bord du suicide,
non ? Non, ça va. Elle n'est pas encore trop addict au téléphone.
Mais en tout cas, ça prouve le poids de Facebook, puisque ça montre comment, dans un monde qui est totalement numérisé dans les relations et dans les dialogues, comment une coupure de Facebook montre le poids de cette société et de sa position dominante. Puisque,
Une coupure de seulement 7 heures.
Hein. Ouais.
C'est pas énorme.
Et 7 milliards.
Mais il a perdu 7 milliards en bourse.
Incroyable. Hein. Ouais. Et donc, on vous pose la question sur notre compte Twitter de Sud Radio, puisque Twitter fonctionne. on vous a demandé si, justement, ça vous a manqué hier soir, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et WhatsApp. Ouais, ils disent non à 90%, je ne les crois pas. Ça a quand même un peu manqué. Ouais, à 10%, non à 90%, mais les votes viennent de
commencer. Allez.
Mais Christelle est honnête, elle dit... Ça n'a pas duré 3 jours non plus, il y avait Twitter. Donc voilà, c'était la réponse que vous faisiez.
Ouf, il y avait la télé.
Il y avait la télé.
Alors, on passe au zapping.
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
La mort de Bernard Tapie est dans tous les esprits. Et hier, Canal+ a ressorti une archive, la boîte à questions, vous savez, la boîte où il répondait face à un écran. Il était avec sa fille Sophie Tapie. Et vous allez voir que le passé, puisque ça remonte avant 2008, vous allez voir que le passé résonne avec le présent. Il s'imaginait quelque chose qui est devenu une réalité.
La chose à ne jamais dire à Bernard Tapie. J'adore le PSG. Bonjour monsieur Tapie, puis-je vous appeler Nana? Évidemment. Combien de chiffres sur votre compte en banque? Oh la vache. Je ferais pleurer si je le montrais.
Vous nous faites un petit duo sur une chanson de Michel Sardou?
Je me lève et je te bouscule.
C'est clou-clou ça.
Tu ne te réveilles pas. Comme d'habitude.
Bernard, c'est toi qui vas financer le plan banlieue si tu gagnes les 500 millions d'euros.
500 millions d'euros? Si je gagne 500 millions d'euros? Mais je m'en vais sur la planète Mars et je n'en redescends plus jamais.
Il n'y croyait pas à l'époque et il a eu 405 millions en 2008. Vous l'aviez rencontré, Bernard Tapie?
Oui. Je l'ai interviewé au moment de l'affaire OMVA. Et ça a été à la tapis. Il est juste avant l'antenne, il me dit aucune question sur l'affaire OMVA. J'en veux pas. Donc une sorte d'intimidation. Et puis c'était un mec, quoi. Et évidemment, j'ai posé des questions sur OMVA. Et à la fin, il est sorti du studio, il m'a regardé et il m'a dit Elle a des couilles, la petite.
Incroyable. Voilà. Ouais. Et puis, alors maintenant, passons à Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, qui était l'invité hier de LCI. Oh, il lui a rendu hommage à Bernard Tapie. Enfin, à la façon de la CGT. Hein.
Si vous voulez, je comprends l'émotion des supporters de l'OM, parce que Marseille a fait rêver les Marseillais et la France. Mais derrière, c'est un homme d'affaires peu scrupuleux. Et puis, beaucoup de licenciements lors de rachats d'entreprises pour un franc à l'époque symbolique. Donc c'est plutôt ce côté patron peu social qui pensait d'abord à gagner beaucoup d'argent.
Ouais, Philippe Martinez, pour vos hommages, il est fabuleux. Élise, je vous le dis tout de suite, le rassemblement de la gauche, c'est pas gagné, mais alors vraiment pas gagné. Hier, je sais pas si vous avez entendu, Fabien Roussel du Parti communiste, il s'est moqué de Yannick Jadot. Il a été très ironique, vous allez voir, il y a du rififi dans la basse-cour.
Quand je lis l'interview du candidat Jadot des Verts, et que la première mesure qu'il met en place, c'est de libérer les poulets, excusez-moi, mais moi, la première mesure que je mets en place, c'est d'augmenter les retraites et les salaires. Et je libérerai les poulets aussi, pour avoir de l'élevage en plein air. Et pas que pour les poules et les poulets, pour nos ovins, pour les agneaux, les bœufs, voilà, oui, pour le plein air. Mais enfin, la première mesure que je prendrai, ce sera de m'attaquer à cette question sociale.
Restons dans le poulailler avec restons dans le poulailler.
Libérons les poulets.
Libérons les poulets. C'est incroyable. Ouais. Restons dans le poulailler avec Marlène Schiappa, le poulailler politique. Ah ouais, attention.
Ouais, attention.
Le poulailler politique, elle était au campus de la majorité de 2021. Alors elle a tenté l'humour. Je ne sais pas si vous avez vu cette séquence dans Quotidien. Bah, Tex sort de ce corps. Je pourrais dire.
Un monde où l'humour est maître.
Oui, j'ai un micro, mais non, je ne vais pas chanter. On fait de la politique, on doit être tristounet. C'est pas parce qu'on est ministre qu'on est obligé d'être sinistre.
Et c'est pas parce qu'on est ministre qu'on est humoriste.
Alors je dois vous le dire, lors d'un débat télévisé l'autre jour, Valérie Pécresse a dit à Gérald Darmanin « Oui mais vous faites partie d'un parti politique de gauche. » Alors moi j'étais contente, j'ai appelé toute ma famille et j'ai dit « Allô, c'est Marlène, je suis de gauche, bonne nouvelle. »
Oui, c'est un peu...
On peut pas être bon partout.
Vous voulez rencontrer Marlène Schiappa ou pas?
Très peu.
Et pour finir, alors j'ai une bonne nouvelle pour à la fois Élise et Linda, pour toutes les deux. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires, je peux vous dire, qu'il y a du cash.
Il va y avoir des émissions d'air.
Voilà, il y a du cash à non plus finir. Ils sont même plus nombreux avec la crise du Covid, comme le rappelait Pascal Perry sur LCI. Écoutez bien.
7,5 milliards d'individus et 3 000 milliardaires. Beaucoup de petits milliardaires arrivent sur le marché. Ce sont des gens dont la fortune s'établit autour de 1,5 milliard. Ce sont d'ailleurs des profils souvent d'entrepreneurs. Je note que ce ne sont pas des héritiers. Ce sont des gens qui ont eu la bonne idée au bon moment. Alors, qui sont-ils? C'est par exemple Stéphane Bancel, le patron de Moderna, qui a trouvé un vaccin ARN pour sauver des centaines de milliers de vies. C'est aussi tous ces nouveaux acteurs de la digitalisation de l'économie, des entrepreneurs qui ont misé sur ce que j'appelle, moi, l'économie des solutions pour le commerce, pour la distribution, dans les processus de production. C'est, au fond, cette liste des nouveaux milliardaires, le triomphe de l'économie solutionnelle. C'est la nouvelle économie du 21e siècle. Aime tes milliardaires. Pourquoi? Parce que tes milliardaires payent des impôts, créent des emplois et produisent de l'innovation.
Oui, il a raison. Ah,
Vous aimez les milliardaires?
Attendez, vous ne pouvez pas ne pas aimer des gens qui investissent, qui innovent, qui inventent des nouveaux vaccins. Moi, s'ils paient leurs impôts, il n'y a aucun souci.
Oui, ce qui n'est pas le cas de Dominique Strauss-Kahn dans le documentaire. Enfin, on va.
Ne faites pas de la diffamation.
On va y revenir. Effectivement, vous allez nous expliquer pourquoi il se retrouve dans ces Pandora Papers. On y revient dans un tout petit instant. On marque une petite pause et on se retrouve avec Élise Lucet et Linda Bendali qui a donc réalisé cette grande enquête.
Sud Radio 10h midi. Valérie Expert Média.
On est ensemble pour l'émission Média avec Élise Lucet et Linda Bendali. Vous êtes journaliste et réalisatrice. Vous avez enquêté sur DSK. C'est un cache investigation qui sera diffusé jeudi à 21h05. DSK enquête sur un homme d'influence. C'est en partenariat avec l'ICIJ. Donc, ICIJ, pardon, excusez-moi. Consortium international des journalistes d'investigation. Ça, c'est en français.
C'est mieux.
Et hier, vous nous l'avez dit en début d'émission, à la même heure, le même jour, donc tout ce qui était dans
soir.
C'était dimanche soir, tout ce qui était dans les Pandora Papers a été révélé, enfin tout non, parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de
12 millions.
Voilà, donc vous allez nous raconter un petit peu, expliquer à nos auditeurs ce que c'est que ces Pandora Papers, comment ça fonctionne. Peut-être qu'on peut écouter la bande-annonce de l'émission du Cash Investigation.
Pour vous raconter ce DSK côté cash, nous nous sommes plongés pendant des mois dans des millions de documents confidentiels confiés par une source à l'ICIJ, le consortium international des journalistes d'investigation. Nom de code, les Pandora Papers. L'ancien ministre de gauche a implanté ses sociétés dans des endroits du monde où l'impôt est à zéro.
On arrive déjà à environ 6 millions d'euros d'impôt sur les sociétés.
Qu'elle n'a pas payé ?
Qu'elle aurait pu payer en France si elle avait été domiciliée en France.
Bonjour, monsieur Strauss-Kahn, c'est Élise Lucet, France 2, Cash Investigation.
Voilà. Bonjour.
Bonjour, c'est Élise Lucet.
Alors, expliquez-nous peut-être l'origine de l'enquête. Comment est-ce que vous travaillez, Linda ? Comment est-ce que vous avez décidé d'enquêter sur DSK ? Vous aviez connaissance de ce qu'il y avait dans ces Pandora Papers et c'est ce qui a guidé votre enquête ?
Exactement. Enfin, à l'origine, on n'a pas connaissance, on cherche. Ouais. On cherche tous les Français dans cette base de données de 12 millions de documents quand même. Donc, c'est quand même une énorme masse de travail.
Mais qui proviennent d'où ? Qu'on comprenne un petit peu même ce qu'étaient les Panama Papers ou les Pandora Papers.
Bien
c'est
sûr.
Un peu abstrait pour ceux qui ne sont pas forcément au courant.
Donc à la base, c'est une source anonyme qui donne à l'ICIJ cette masse de documents. L'ICIJ la met à disposition de 600 journalistes dans le monde qui, eux, vont chercher dans cette base de données des histoires, des faits qu'ils vont raconter. Voilà.
C'est donc, documents volés, alors ?
C'est des documents d'optimisation fiscale. Et ce qui est intéressant, si vous voulez, par rapport aux Panama Papers, et là je réponds à votre question, c'est que sur les Panama Papers, tout venait d'un cabinet du Panama qui s'appelait Mossack Fonseca. Là, la grande différence, c'est que ça vient de 14 cabinets différents. Donc, c'est la première fois, en fait, qu'on a une géographie assez clair de la manière dont le monde offshore, qui est extrêmement secret, évolue et bouge. Et donc avant, on connaissait des paradis fiscaux qui n'ont pas bougé pendant des décennies. Depuis les Panama Papers, il y a quand même eu une véritable action des pouvoirs publics pour faire bouger ces paradis fiscaux. Mais on voit aussi que justement, ces zones offshore bougent et vont du Panama à Dubaï, donc les Émirats Arabes Unis, à Hong Kong, et arrivent dans de nouvelles régions. Donc c'est ça qui était vraiment très intéressant pour nous. Et après, je reviens sur le travail de Linda, c'est un travail pharaonique, c'est-à-dire
qu'il faut se plonger
dans une masse de documents. Et ce qui est important, et c'est pour ça que le consortium international des journalistes d'investigation existe, c'est que si on n'était pas plus de 600, on n'y arriverait jamais. Imaginez si on était 4 ou 5 à travailler sur 12 millions de documents.
Donc,
c'est injouable.
Et après, vous l'union mettez en commun, comment ça se passe ?
Alors, l'union fait la force, et en ce qui nous concerne sur les dossiers français, on travaille avec Le Monde et avec Radio France, chacun fait une partie de l'enquête et on partage tout. Donc, ça veut dire que Linda, par exemple, qui est la seule à être allée aux Émirats Arabes Unis, a partagé ses informations avec Le Monde et avec
mais
Radio
quand,
France
par exemple,
sur cette partie-là.
Laissez-la terminer, Gilles.
Non, parce que je veux revenir à ma question. Quand il y a les relevés de la société Parnasse, qui est la société de DSK, les gens le verront dans le documentaire, vous avez tous les comptes. C'est-à-dire, vous avez tous ces comptes bancaires. Qu'est-ce qui vous dit pas, qui vous dit que la source qui vous a donné ça, c'est pour lui nuire ?
C'est pas pour lui nuire, oui. Enfin, que c'est des documents crédibles. C'est ça,
pour l'unir, puisque c'est des documents volés.
Ce sont des documents internes.
Donc, est-ce que vous, comme vous ne savez pas d'où ça vient, est-ce que vous êtes peut-être le bras armé de sa banque, d'un gouvernement ?
Non, mais il n'y a pas que lui.
Vous comprenez ma question.
En fait, sur la France, par exemple, il y a 600 Français qu'on a trouvés effectivement dans ces documents. Dont le tennisman
Le capitaine, capitaine de l'équipe de France.
Exactement. Un ancien député européen d'extrême droite, Émeric Choprade. Donc nous, on voit 600 Français et à l'intérieur, on voit Dominique Strauss-Kahn. Et c'est là où on décide, quand on découvre l'ampleur des documents, en fait, ce qui est intéressant dans ces documents, c'est que c'est la face cachée d'un business qui existe depuis, on va dire, 10 ans et qu'on peut enfin mettre en lumière.
Pour dissiper toute crainte, dans les 600 Français, effectivement, si nous, on a décidé de s'intéresser à Dominique Strauss-Kahn, c'est parce qu'il y a
à part ces trois-là qu'on a cités, les autres sont des inconnus, vraiment, très franchement. Et puis, il est assez emblématique de quelque chose qu'on voit plus globalement dans les Pandora Papers. C'est-à-dire, quand vous voyez Tony Blair, ancien Premier ministre anglais de gauche. Qui se retrouve dans les Pandora Papers, quand vous voyez le Premier ministre tchèque qui se retrouve dans les Pandora Papers, quand vous voyez Dominique Strauss-Kahn qui se retrouve dans les Pandora Papers, vous dites qu'en France, Dominique Strauss-Kahn est emblématique d'une dérive de certains hommes politiques. Attention, je ne jette pas l'opprobre sur tous les hommes politiques, mais de certains hommes politiques qui ont bénéficié de ces sociétés offshore et de ces paradis fiscaux, alors qu'ils avaient un tout autre discours politique quand ils s'exprimaient face aux Français. Donc c'est ça qui nous a intéressés. C'est, si vous voulez, cette dissonance entre le personnage public, la manière dont il a pu s'exprimer. On rappelle quand même qu'il a été présidentiable en France.
Et qu'il était patron du FMI.
Donc, si vous voulez, il a une réputation, une zone d'influence, une image qui s'est imposée en français. Et nous, ce qu'on découvre dans les Pandora Papers, et en l'occurrence, c'est Linda qui fait ce travail, c'est vraiment que ces actes vont à l'inverse de ces discours. Donc c'est ça qui nous a intéressés. Puis après, moi je rends vraiment hommage à Linda qui a bossé comme une dingue, parce qu'il y a les Pandora Papers, mais je peux vous dire qu'elle a trouvé des tonnes et des tonnes de documents qui n'étaient pas dans les Pandora Papers et qu'elle a cherché bien ailleurs, et elle a fait un boulot de dingue pour trouver tout ça.
On le voit, on vous suit, c'est quasiment une enquête policière. C'est comme à chaque fois Cache Investigation, extrêmement nerveux, monté de façon très dynamique. Mais on voit que vous allez rechercher, vous allez frapper aux portes pour essayer de trouver où est la société, etc. Mais la question, vous parlez de ces sociétés offshore, c'est légal. Le problème, c'est que tout ça est légal. Non, c'est pas moral, mais c'est légal.
Non, mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est effectivement par rapport au discours, Linda a trouvé un spécialiste, j'ai oublié son nom, mais qui a calculé l'impôt que Dominique Strauss-Kahn, l'impôt sur les sociétés, on est bien clair, que Dominique Strauss-Kahn aurait dû régler en France à cette époque-là, pendant ces cinq années-là, où il a eu 0% d'impôt sur les sociétés, et nous maintenons bien cette affirmation.
Oui, mais si sa société est à l'étranger, il viole rien.
Oui, mais à l'époque, il était domicilié boulevard Raspail.
Et à l'origine, sa société était en France. C'est-à-dire qu'il crée sa société d'abord en France et ensuite il la délocalise au Maroc.
Quand Renault met ses usines en Pologne pour moins payer, c'est exactement la même démarche. Pourtant, Renault est en France. Enfin, je dis Renault, on va dire une marque automobile ou une société qui déplace en Tchécoslovaquie ou en Slovaquie ou en Pologne. Ils ont la même démarche que DSK.
La question, ce qui se pose, c'est que Dominique Strauss-Kahn, tout son carnet d'adresse, tout son réseau, toute la façon dont il se présente dans les conférences, tous les conseils qu'il vend, il l'a acquis grâce à la République, grâce à la France, grâce à l'État français.
Mais on joue tous de nos réseaux et de notre passé.
Et à un moment, est-ce qu'à un moment, on ne doit pas redonner à la collectivité qui, justement, a permis tout ça ? C'est un peu la question. C'est vrai qu'on est du point de vue moral, pas légal.
Il a évidemment réagi en disant que c'était de la méchanceté et que... alors attendez, je vais vous citer exactement... son tweet exact, c'est quand la méchanceté devient mensonge, vos équipes de professionnels auraient pu vérifier que je suis résident fiscal marocain depuis 2013, que je paye mes impôts à hauteur de 23,8% de mes bénéfices, soit 812 000 euros pour les années 2018, 2019, 2020.
Alors, première chose, méchanceté et mensonge, toute l'équipe de Cash, Emmanuel Gagné, Sophie Le Gall, notre rédacteur en chef, réfute totalement ces accusations. On fait un travail journalistique, ultra vérifié, factuel. Linda a travaillé pendant des mois dessus. Et si je vous dis ça, c'est qu'effectivement, il répond complètement à côté. C'est que lui, il parle d'impôts sur les dividendes, nous on parle d'impôts sur les sociétés qui sont deux choses totalement différentes. Et pour être même tout à fait précis, quand il dit qu'il paye 23,5% d'impôts au Maroc, en fait, il accole deux impôts qui sont complètement différents. Je vais laisser Linda, qui est encore plus précise que moi.
L'impôt sur les revenus, l'impôt sur les dividendes qu'il paye à titre personnel, qui est de 15%, et l'impôt sur les bénéfices. Et en plus, il parle de 2018. Nous, on parle des cinq années pendant laquelle il a bénéficié d'une exonération fiscale en délocalisant son activité. Donc, effectivement, il y a un brouillage de pistes, on va dire, en additionnant des chiffres qui n'ont pas lieu d'être. Ce n'est pas très rigoureux économiquement, en fait.
Ou en répondant sur des périodes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres.
Oui, parce qu'il dit qu'il est résident fiscal en 2013, mais il parle des impôts de 2018.
Et venant d'un ancien directeur général du FMI, ça m'étonne.
Et ce n'est pas faute d'avoir essayé de le joindre. Dans le documentaire, vous tentez de l'appeler.
Merci de laisser un message après le bip sonore.
Oui, bonjour, monsieur Strauss-Kahn, c'est Élise Lucet, France 2, Cache Investigation. Je me permets de vous appeler parce que, comme vous le savez peut-être, on souhaiterait vraiment vous interviewer dans le cadre de l'enquête que nous menons sur vos activités professionnelles depuis quelques années, notamment au Maroc et au RAC. Auriez-vous la gentillesse, s'il vous plaît, de me rappeler le plus rapidement possible au numéro qui s'affiche. Merci infiniment, j'attends votre appel avec impatience. Voilà. Merci.
Oui, alors
pour il n'a pas rappelé.
Non, il n'a pas rappelé. Pour être tout à fait honnête, nous le regrettons tous. Linda aussi, nos deux rédacteurs chefs aussi, enfin toute l'équipe de Cache le regrette parce que quand il y a un travail comme ça qui est effectivement extrêmement précis et factuel, nous notre seule envie c'est de donner à la personne.
Mais vous auriez dit quoi, Élise ?
Mais il aurait peut-être. On attend à ce que Dominique Strauss-Kahn réponde à une émission de 2 heures, un prime de France de 2 heures par un tweet de 3 lignes. Ouais. Mais franchement, donc
est-ce qu'on est obligé de vous répondre ?
Non, pas du tout. Personne n'est obligé de nous répondre, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on le regrette dans la mesure où on a contacté son assistante personnelle, son avocat, son portable marocain, son portable français,
vous
son portable émirati, où je suis bloquée. Ouais. Et vous voyez, on a vraiment tout tenté pour lui donner effectivement l'occasion de s'exprimer, donc je comprends mal le tweet où on parle de méchanceté et de mensonge, alors qu'on lui a donné l'occasion à de multiples reprises de nous répondre, ce qu'il n'a pas souhaité faire. C'est son droit. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu compliqué derrière, de dire, j'ai pas répondu, mais je vais balancer un tweet où je vais répondre à côté et parler de mensonges et de méchanceté. Non.
Mais il peut ne pas, envie de vous répondre, de vous ouvrir ses comptes et de vous dire.
Nous faisons notre travail.
Oui, et vous faites votre travail.
Voilà. Moi, je voulais.
J'avais une question. Est-ce qu'il y a eu des pressions ? Est-ce que vous avez eu des pressions sur.
Non, on n'a pas des pressions.
Non, mais des retours, quand vous interrogez l'avocat, il comprend très bien, son avocat, de quoi il s'agit. Il est assez embarrassé, donc est-ce que par des moyens détournés ou via la présidence de France Télévisions ?
En général, c'est par là que ça passe. C'est-à-dire qu'on ne nous appelle pas directement. Oui. D'abord parce que je pense qu'on est persuadés tous que moi, j'enregistre toutes mes conversations téléphoniques. Ouais. Et peut-être Linda aussi. Et voilà, donc du coup...
Là, on est enregistrés, vous savez.
Les coups de fil se font rares. Ouais. Non, mais nos interlocuteurs sont persuadés que Nous enregistrons tout. Okay. Mais ça passe plutôt par la présidence de France Télévisions. Là, en l'occurrence, j'ai pas eu de retour de Delphine Ernotte ou de Stéphane Sidbon me disant qu'il y a eu pression. Et on est toujours effectivement soutenu par la direction de France Télévisions qui soutient toutes nos enquêtes à partir du moment où elles sont faites avec sérieux et rigueur.
Ouais. Moi, je voulais savoir, Linda, qu'est-ce qui vous a choqué le plus dans cette enquête ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué concernant Dominique Strauss-Kahn ? Parce qu'il y a évidemment ces affaires, mais dans une deuxième partie du documentaire qu'on verra jeudi, il y a surtout ces impointances avec des dictateurs en Afrique et puis un pays qui est...
Oui, le Sud-Soudan, toute la partie sur le Sud-Soudan.
C'est incroyable. Ils montent une banque alors que les Soudanais n'ont pas les moyens, entre guillemets, d'ouvrir des comptes. Mais en fait, ils ne les ouvrent pas pour ça.
Disons que c'est surtout l'opportunisme avec lequel il semble fonctionner et puis la légèreté dans tout ça. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on parle du Sud-Soudan, on a effectivement cette banque où il espère peut-être créer donc une carte bancaire pour...
Pour les riches,
pour les riches
puissent se cacher.
On va essayer de prendre toutes les précautions oratoires. Mais c'est vrai que c'est plus une question de... il aime frayer avec les marges, il aime frayer un peu avec la canaille, on va dire. Il a que des personnalités un peu recommandables autour de lui, des entreprises qui ont des enquêtes pour corruption certaines, des oligarques russes. Donc c'est vrai que c'est cette galaxie de personnages qui est assez troublante. Et il n'a pas beaucoup de... Il semblerait qu'il n'ait pas beaucoup de scrupules dans ses actions.
Oui, vous-même, vous avez tenté de l'inviter, de le faire participer à une conférence. Donc, c'est assez simple de demander à avoir Dominique Strauss-Kahn. Et en fonction, je n'ai pas trouvé que c'était très cher, finalement.
C'est dans les prix.
C'est beaucoup.
70 000 euros pour 45 minutes.
C'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup. C'est évidemment beaucoup d'argent. Oui, je n'avais pas vu le 45 minutes. Je croyais que c'était pour.
Mais alors, il va au cocktail.
C'est que le discours.
Il va au cocktail.
Et le repas.
Non, il ne va pas au cocktail, il va au dîner.
Avec des billets d'avion en business et la compagnie de son choix, l'hôtel de son choix. Effectivement, ce qui est là-dedans, c'est la moralité qui est frappante.
Un petit peu dans tout ça, non ?
Oui, enfin, je pense que nous, enfin, pardonnez-moi, je vais me répéter un peu, mais ce qui nous a vraiment surpris, c'est l'inadéquation entre son discours politique et ses actions. Après, il en a le droit. Enfin,
oui, c'est ça. Il y a rien dit.
Ça veut dire qu'il serait de droite, ça vous choquerait
non,
pas ?
Non, pas du tout. C'est pas ça. C'est pas une histoire. Il y a des gens très bien à droite. Moi, je pars pas du principe que les gens qui sont bien sont à gauche et ceux qui sont à droite sont nuls. Enfin, ce serait vraiment ma part complètement obtus. Donc, c'est pas ça.
Mais du coup,
quand on a un discours politique, quand on demande aux Français de vous faire confiance, de voter pour vous, pourquoi pas d'être président de la République, puisque en France, on est allé jusque-là, et qu'on a un vrai discours politique, on a des actions qui sont en rapport avec le discours qu'on a vis-à-vis des électeurs.
Oui, mais c'est fini.
Il n'avait pas de conviction auparavant.
Il a changé de vie, parce qu'en fait, du coup, vous lui faites la leçon.
Non, pas du tout.
C'est de dire, voilà, vous êtes un homme de gauche, vous avez été patron du FMI, vous ne devriez pas avoir ces pratiques-là.
Non,
parce que tout est légal dans ce qu'il fait.
Non, Cache Investigation n'est pas là pour faire la leçon. Cache Investigation est là pour révéler, pour vraiment donner des informations. Je pense que dans l'inconscient collectif, tout le monde pensait qu'après l'affaire du Sofitel, Dominique Strauss-Kahn, c'était fini. Enfin, il était au fond du trou, et personne ne s'en réjouissait, au sens personne ne se réjouit de voir quelqu'un au fond du trou. Et on découvre tout autre chose. Donc, le boulot des journalistes, sans du tout vouloir donner la leçon, c'est tout simplement de révéler une vérité méconnue. Mmh. Et c'est ce qu'a fait Linda avec son enquête. Mmh. Donc, à un moment, c'est notre boulot aussi de dire, vous pensez ça, la réalité est tout autre. Point. Et hors de nous, l'idée de vouloir donner des leçons à qui que ce soit.
Une auditrice nous dit, étrange tout de même que le fisc français ne soit pas sur le coup, non ? Alors elle nous dit, normal, sa société est domiciliée en France, donc arrêtons de fouiner pour trouver un scoop. Mais effectivement, le fisc français a quelque chose à dire ou pas ?
Alors ce qui est intéressant, c'est...
Vous les avez appelés ou pas ?
Nous on n'est ni magistrat ni quoi que ce soit, donc ils feront le travail qu'ils ont envie de faire, et c'est absolument... Nous on s'arrête à notre travail de journalisme, punto, c'est fini. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'après les Panama Papers, il y a quand même 50 instructions qui ont été ouvertes en France. Et dans mon souvenir, 126 millions d'euros.
126
millions d'euros qui ont été recouvrés. Donc, ce n'est pas inutile. Ces révélations qui sont faites par le Consortium international des journalistes d'investigation n'est pas inutile. Au niveau mondial, c'est 1,150 milliard d'euros qui ont été recouvrés comme ça.
Est-ce que vous savez s'il y a un cache investigation dans d'autres pays sur les Pandora ? Est-ce que, par exemple, il va y avoir une émission sur l'ancien Premier ministre anglais ou pas ? C'est spécifique à la France ?
Non, je pense. Enfin, je ne sais pas si Panorama, en l'occurrence, c'est vraiment le magazine d'investigation britannique va faire un magazine sur Tony Blair. Mais non, c'est pas spécifique à la France. Dans tous les magazines d'investigation, de télé, et travail sur les Pandora Papers. Alors, je sais pas si Panorama est affilié, mais BBC doit l'être. Donc, normalement, comme Panorama est dans BBC, à la ICIJ.
Il y a 35 dirigeants internationaux qui apparaissent dans ces documents. Il y a le roi Abdallah de Jordanie, donc Tony Blair, vous l'avez évoqué. Il y a Ali Bongo également. Le premier ministre des Émirats Arabes Unis. Lui, je sais pas, il est au cœur même d'un endroit où c'est plutôt facile. Le président du Kenya, le président équatorien, le premier ministre libanais. C'est vrai que tout ça est quand même assez moche, on va dire.
Mm-hmm. Et c'est vrai, pour revenir là-dessus, c'est pas spécifique à nous de focaliser sur Dominique Strauss-Kahn. C'est l'ICIJ qui a décidé dès dimanche de dire, dans les 53 personnalités les plus importantes de ces 12 millions de documents, il y a Dominique Strauss-Kahn, donc c'est une des personnalités phares de ces documents.
Oui. Moi, j'en ai un autre que j'aime beaucoup, Valérie, c'est le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, qui lui est visé, vous êtes au courant, des accusations de corruption parce qu'il a réalisé des transactions immobilières au Royaume-Uni de 45 millions de dollars d'un immeuble de bureau qu'il a acheté. Vous savez qui est le propriétaire ? Son fils de 11 ans, Haider.
On avait fait, on a un de nos confrères, Benoît Bringer, qui vient de faire un très très beau documentaire sur ce qu'on appelle la diplomatie du caviar, c'est la manière dont l'Azerbaïdjan, justement, étend sa zone d'influence en payant parfois des députés européens pour faire...
En caviar ?
Pas en caviar, en fait. On appelle ça la diplomatie du caviar, mais c'est en billets sonnants et trébuchants.
Bon, moi, je prendrais du caviar. En tout cas, pour revenir à votre enquête, ce qui est assez fascinant, c'est la façon dont à la fois Dominique Strauss-Kahn participe à l'élaboration de cette espèce de paradis fiscal à Casablanca pour laquelle il prend 2 400 000 euros, c'est ça, pour élaborer ce plan d'exonération fiscale, Casablanca Finance City, et dont lui-même profite.
Oui,
ça ?
C'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il est toujours dans... Il a une société en France, il crée un cadre, enfin il participe au développement d'un cadre juridique à Casablanca, il crée une société au Maroc dans le même temps. Donc c'est vrai qu'à chaque fois...
Mais il est payé en plus par le gouvernement marocain, c'est ça qui est...
C'est ça.
Pierre Moscovici, il n'est pas très à l'aise, il est assez
ferme.
Moi
je le trouve assez droit dans ses bottes, hein, non ? Parce que nous, il nous a beaucoup intéressé, Pierre Moscovici, parce qu'il était commissaire européen, notamment à la fiscalité, et il a beaucoup participé, justement après les Panama Papers, à la réforme de tout ce que pouvait être la fiscalité, la manière dont l'Europe pouvait parler à ses partenaires en leur disant attention, et en l'occurrence vis-à-vis du Maroc ça a été attention, vous êtes en zone grise à cause justement de la Casa Finance City. Donc vraiment on est dans le même périmètre, et c'est étonnant de voir comment Pierre Moscovici a mis la pression sur le Maroc. Et quand je dis Pierre Moscovici, en fait c'est la Commission européenne, mais il était vraiment très proactif, et a placé le Maroc en zone grise pour que justement les statuts de la Casa Finance City, qui était une véritable zone franche à 0% d'impôt sur les sociétés, évolue, ce qui a été le cas. Et en 2022, la réforme sera totalement terminée, en grande partie grâce à la pression que l'Europe a mise, et que donc du coup Pierre Moscovici a mis. Donc il est assez convaincant là-dessus. Après, il refuse de s'exprimer sur Dominique Strauss-Kahn, qui a
été
son prof.
Il était très très proche.
Il vous a bien résisté par rapport à d'autres.
Franchement, je pense qu'il est tout simplement il est clair. Enfin, lui, il a agi par rapport à ces zones franches, et notamment par rapport au Maroc. Il est droit dans ses bottes par rapport à ce qu'il a engagé vis-à-vis de la Commission européenne, et il a pris ses distances avec Dominique Strauss-Kahn.
Oui. Quelqu'un dit pourquoi vous... Alors, beaucoup de... il y a des gens qui défendent Dominique Strauss-Kahn. Pourquoi vous acharnez sur un seul homme ? Non, pas sur une ambulance, sur un seul homme. Il n'y a pas un seul homme. Il y a beaucoup de gens dans ces Panama Papers, dans ces Pandora Papers, et vous l'avez expliqué. DSK fait partie quand même est une des personnalités qui ressortent très mondialement, au niveau mondial.
Si l'ICIJ, au niveau mondial, donc c'est pas nous en France, c'est tous les plus de 600 journalistes qui ont participé, vous disent qu'il fait effectivement partie des 50 personnalités les plus en vue dans les Pandora Papers, c'est pas une vue de l'esprit de notre part, c'est vraiment une analyse fine de plus de 600 journalistes dans le monde qui disent, oui, parmi les personnalités marquantes dans ces Pandora Papers, les 50 marquantes, Il y a Dominique Strauss-Kahn.
Est-ce que ça peut changer des choses, ce type de révélation dans le comportement, ou est-ce que ça veut dire que ça va encore complexifier les montages financiers?
Mais écoutez, à partir du moment où ça change déjà la compréhension des citoyens, c'est notre seul but. Notre but n'est pas, entre guillemets, de changer le monde. On sait où on est que journaliste. Et on essaie de faire le job correctement. Et on n'a pas envie ni d'être homme politique, ni d'être quoi que ce soit, ni magistrat, ni rien. On n'est que journaliste. Mais informer le public en soi, une mission.
Faire bouger les choses, Linda.
Ça fait bouger les choses, bien sûr. C'est-à-dire que depuis les Panama Papers, il y a quand même la fin du secret bancaire en Europe. Il y a des échanges automatiques d'informations entre les États qui n'existaient pas avant. Et on a des registres, de plus en plus d'États qui font des registres publics d'informations sur les entreprises. Donc, il y a quand même des avancées. Le problème, c'est qu'en face, on a des personnes qui trouvent toujours des schémas de plus en plus astucieux pour échapper au fisc. Mais il y a quand même des avancées et qui sont liées quand même à ces révélations.
Petite question média, parce qu'on est quand même une émission média. Les médias en font-ils trop avec Zemmour ? Quel est votre regard sur Zemmour à la folie qu'on voit dans tous les journaux et dans les chaînes d'infos? Parle à la journaliste, hein, à la personne.
Oui, globalement, je dis oui, dans la mesure où on est encore assez loin de l'élection présidentielle. Et surtout, moi, c'est pas tant est-ce qu'on en fait trop, c'est que moi, j'ai envie de parler, j'ai envie d'entendre, globalement, parler de propositions concrètes, de programmes, de choses qui sont précises. Et là, moi, j'ai le sentiment sur Zemmour, mais sur d'autres aussi, d'ailleurs, qu'on est dans une petite bataille de joutes oratoires et médiatiques, de petites phrases.
Ça veut dire que les journalistes ne posent pas les bonnes questions, alors ?
Pas forcément, ça veut dire que aujourd'hui, en tout cas, il y a certains médias qui préfèrent créer des événements médiatiques plutôt que de se pencher sur les programmes de manière très précise. Peut-être est-on encore assez tôt dans la campagne pour que chacun ait développé ses programmes. Mais moi, en tant qu'électrice et en tant que journaliste, les deux, mon capitaine, ce qui m'intéressera le plus, c'est précisément ce qu'il y a dans le programme de chacun. Ouais. C'est plus chiant. C'est plus voilà, hein, il faut s'y coller. C'est plus compliqué, mais c'est quand même a priori ce qui peut faire bouger les cinq années de notre vie. Donc c'est ça qui est intéressant.
Pourquoi vous n'êtes pas dans le dispositif électoral de France Télévisions? Vous aimeriez y être?
Ah non, pas du tout. Alors vous très avez donné franchement,
un petit peu, non
oui, alors, j'ai donné pas mal déjà. Et puis je pense qu'il y a des gens formidables. Enfin, vous avez Anne-Sophie Lapix qui fait 20 ans 22, qui
oui,
est.
Mais bon. C'est du discours. Est-ce que vous
non,
aimeriez être à l'antenne?
Aucune.
Non, le trésor vous manque pas.
Alors, toujours pas. Parce que je crois que Gilles vous posez la question à chaque fois, mais non, toujours pas.
Je suis constant. Vous non.
Ça vous manque pas. Comment
J'ai vraiment quitté l'antenne quotidienne avec beaucoup de plaisir. Je l'ai faite avec beaucoup de plaisir, mais pendant 26 ans. Donc, je crois que j'ai donné ma part. J'ai fait des soirées électorales, j'ai fait des spéciales. Enfin, j'ai fait tout ça avec beaucoup de plaisir. Et puis, il y a des gens de talent qui le font très bien derrière. Moi, j'ai une passion pour le journalisme d'enquête, d'investigation.
Mais comment vous
travaillez d'ailleurs.
Comment vous travaillez justement ensemble? Comment vous vous positionnez par rapport au travail de Linda?
Alors, sur Cache Investigation, ce qui est super intéressant et dur pour eux, hein, enfin, moi je pense qu'il faut vraiment rendre hommage à tous les réalisateurs de Cache, c'est qu'ils passent un an complètement immergés dans leur enquête. Mais quand je dis complètement, c'est immergés, ils se brossent les dents avec, ils dorment avec, ils prennent leur petit-déj avec, c'est tout le temps. Ouais. Ils sont dedans et c'est une sacrée abnégation, c'est un énorme boulot de dingue. Ouais. Moi, j'arrive à des moments ponctuels déjà sur la décision avec Emmanuel Gagné et Sophie Le Gall des enquêtes que l'on prend et dont on discute avec la chaîne. Ensuite, la manière dont l'enquête va se décliner en trois pôles. Et ensuite, quand ils commencent à avancer sérieusement, là, on revient. Quand moi, je vais devoir faire des interviews qui vont être des interviews un peu pivots et on revient et on discute de tout ça. Mais Cache Investigation, c'est un boulot collectif et je cite volontairement Emmanuel Gagné, Sophie Le Gall parce que c'est deux rédacteurs en chef qui sont ultra costauds et il faut pour épauler des réalisateurs qui vont passer un an dans une enquête.
Oui, immergés et qui ont besoin d'avoir
du recul. Beaucoup
ça
de
a
recul,
été un an DSK, un an d'enquête.
Non, parce que en fait, on avait un délai qui était imposé par l'ICIJ. Ouais. Donc on est depuis le printemps sur cette enquête. Donc ça n'a pas été un an.
C'est quand même.
Mais en accéléré.
Moi, à titre personnel, je remercie Élise Lucet. Vous êtes au courant de cette histoire. J'ai eu un notaire qui a tenté de m'escroquer, mais vraiment, je vous en parlerai après en antenne. Et j'ai expliqué à Valérie. J'ai envoyé notre selfie qu'on a fait ici à Sud Radio. Je lui ai envoyé et je lui ai dit si vous voulez, on peut continuer à discuter. Et l'affaire s'est réglée.
Non.
Et Valérie m'a dit, il faudra que tu lui dises. Donc je le dis à l'antenne et à nos auditeurs.
C'est l'arme de dissuasion massive.
Ça a été, mais vraiment.
Je vais vous prendre en photo. Je vais devenir l'anti-arnaque.
Voilà, j'avais raconté l'histoire à Valérie.
Mais vous nous aviez raconté que parfois ils sont terrorisés quand vous rentrez dans un magasin.
Ça arrive.
Ça arrive, oui.
Ça arrive.
Voilà. Bon. Merci beaucoup, Élise Lucet. Merci, Linda Bendali. Donc, Cache Investigation, DSK, enquête sur un homme d'influence en partenariat avec l'ICI. IG, voilà, je l'ai bien dit. J, vous avez raison, G, c'est G. J.
Consortium international des journalistes d'investigation.
Absolument, c'est mieux en français. Envoyé spécial, c'est évidemment tous les jeudis. Et à voir, à suivre, effectivement, et faites-vous une idée sur l'image de Dominique Strauss-Kahn, sur ce qu'il dit. C'est vrai que quand on se remémore qu'il a été patron du FMI et qu'on voit les montages et le cheminement... Ça interroge. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.